Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Inter.
Jaden, what are you going to do with the money? £900,000, I think it is, that you've won. What are you going to spend it on?
Probably buy my mum a house so we can just, like, just chill out.
Because you share a room, don't you, with your brother?
Yeah, me and my brother, I have a bunk bed, so... yeah, definitely buy a house so I can, like, separate my game in.
C'est un gamer, Wolfies, de son vrai nom Jaden Ashman. En 2019, à 15 ans, ce Britannique devient le plus jeune joueur d'e-sport millionnaire grâce à ses exploits de sport virtuel. Il dit qu'il va acheter une maison à sa maman. Ça sera super de ne plus partager sa chambre avec son frère. 5 ans plus tard, Wolfies vient de faire parler de lui. Il raconte comment, malgré tout, l'argent ne fait pas le bonheur quand on ne sort jamais de ses écrans. Message important alors que l'Observatoire économique de l'e-sport français nous montre que le secteur est en pleine croissance. Rapport sur ce petit secteur, mais super dynamique. Le e-sport tricolore, c'est 140 millions de chiffre d'affaires en 2022, 2 fois plus que l'année précédente. 1 millier d'emplois à temps plein, 230 joueurs professionnels, des dizaines de milliers de spectateurs lors des grands événements. Les Français ne comptent pas pour rien sur cette carte mondiale où la Corée est star et l'Arabie Saoudite déterminée. Alors le problème de l'e-sport français, c'est que financièrement, il est trop dépendant des sponsors et des levées de fonds. Ben oui, c'est pas possible d'avoir des droits télé avec des compétitions qui s'étalent sur plusieurs jours. Et donc, comment on monétise l'audience, ça reste la grande question. En attendant, on voit émerger une politique publique de l'e-sport. Poitiers, Montpellier, plein de collectivités motivées qui passent des locaux, du matériel... Et puis alors, soutien national. Ça remonte jusqu'à l'Élysée. Tweet, réception, le chef de l'État a l'œil sur ce secteur écho au fort rayonnement international. Et le dernier coup de pouce, c'était le 1er janvier. La TVA sur les billets des événements de e-sport a diminué à 5,5%. On dira que c'est une petite dépense d'avenir.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Maria Pasquet réalise ce Mag'Écho, Céline Hila assure la mise en onde, Valentin Pérez est le chargé de programme, à la console c'est Corentin Rouchy qui nous accompagne et Vincent Désillère signe le mixage. L'invité du Mag'Écho vers 9h40, ça sera le patron de la première gigafactory française de batteries pour voitures électriques. Question à Yann Vincent sur cet écosystème en train de voir le jour. Est-ce que l'Europe peut rattraper la Chine et son savoir-faire? Et pour parvenir à être indépendant, autonome en ce qui concerne les batteries électriques, il faut aussi savoir mener la bataille pour les minerais stratégiques. Alors est-ce qu'il faut ouvrir une mine de lithium dans l'Allier? La question se pose en ce moment avec le débat public qui a commencé. Vous entendrez le reportage de Célia Kiré. Nous avons aussi rendez-vous avec Madame Vioboulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Toujours pas mal de courriers pour vous dans la boîte aux lettres d'On n'arrête pas l'écho. Et ce samedi, vous répondez à Léa.
Oui, à propos du délai de carence qui pourrait s'allonger avant de toucher une indemnité de l'assurance maladie. Quelles conséquences pour les salariés? Je vous dis ça tout à l'heure.
Ouais, on se retrouve juste avant 10h. Mais d'abord l'actualité avec une bonne nouvelle du côté des prix à la consommation. On en parle avec Leïla Abboud du Financial Times. Hello Leïla.
Bonjour.
Vous êtes la chef du bureau de Paris du FT. Et Eric Heyer de l'OFCE. Salut Eric.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Alors c'est le chiffre de la semaine, cette inflation à 2,4% sur un an dans la zone euro. Pour nous souvenir d'où on vient, en octobre 2022 c'était 10,6%. Est-ce que ça y est? Est-ce que nous sommes en train de voir le bout du tunnel? Et est-ce que, après ce tunnel, à nous les jours heureux, c'est le débat.
L'inflation est en net recul.
Sur un an, en mars, cette hausse des prix s'est limitée à 2,4%, 0,2 points de moins qu'en février, selon les chiffres officiels communiqués par l'Institut Eurostat. C'est un recul nettement plus marqué que ce qu'attendaient les analystes.
La France est dans la nouvelle géographie de la croissance qu'on a maintenant en Europe.
Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires.
Un des pays qui ont mieux répondu à la crise qui est venue de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique, de l'inflation.
Se féliciter de vaincre l'inflation, ça veut dire on va essayer de ralentir la hausse des prix. Mais ça, malheureusement, ça continue d'augmenter.
Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir.
Et si on regarde là, sur deux ans, c'est beaucoup. Hein, c'est l'ensemble des prix, c'est plus 12%. À titre d'exemple, les revenus. Revenu moyen, c'est plus 8%. Donc, une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 4 points.
Il y a des arbitrages. Donc, restaurant ou week-end, ben, peut-être que ce sera week-end et pas restaurant.
Thierry Marx, chef étoilé et président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
Et même sur la consommation, quand le client est dans le restaurant, c'est des arbitrages sur le vin, sur un plat en plus ou un plat en moins. On a une perte du ticket moyen jusqu'à 15 à 20%.
Oui, les fleurs fleurissent au printemps.
François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France.
Il me paraît très probable qu'il y ait une première baisse de taux au printemps. Je vous rappelle qu'en Europe comme ailleurs, le printemps, c'est une saison qui va d'avril jusqu'au 21 juin.
La perspective d'une croissance radieuse en 2025 tient quand même un petit peu de l'incantation.
Pierre Jacquet, professeur d'économie à l'école des ponts Paris-Tech.
Parce que les vraies sources de la croissance, ce n'est pas la politique monétaire, c'est les gains de productivité. Alors il se trouve qu'il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là, parce qu'on est en pleine révolution industrielle, sauf que ces révolutions industrielles, qui sont des révolutions très structurantes et structurelles, mettent près d'un demi-siècle à produire tous leurs effets.
Éric Heyer, là c'est vraiment votre domaine. 2,4% d'inflation en zone euro, ça y est, c'est le bout du tunnel.
Alors c'est le bout du tunnel. On peut peut-être rappeler, hein, l'inflation avant la crise, c'était plutôt 1,3. D'ailleurs, on se disait, mais où est l'inflation, hein? On rappelle, la Banque Centrale a un objectif de 2. On était en dessous, malgré les politiques de quantitative easing, c'est-à-dire qu'on injectait beaucoup de monnaie, l'inflation n'était plus là. Et puis il y a eu cette crise sanitaire, et là il faut rappeler, dans un premier temps, l'inflation a baissé. Même, on est passé en déflation. Les prix ont même baissé. C'est normal, pendant une crise, la demande s'effondre. D'accord. Et puis ensuite, il y a eu le rebond de 2021, et l'inflation est revenue, mais elle n'était pas grave. C'était juste un rattrapage. Les prix sont revenus au prix qu'ils auraient dû, normalement, ne pas quitter. Donc l'inflation sur 2020-2021, en moyenne, 1,3-1,4. Donc pas de risque. C'est pour ça que les banques centrales n'agissent pas. Mais ensuite, il y a eu fin 2021, début 2022, deux événements. Un, Omicron revient, c'est-à-dire que globalement...
Covid, Omicron, on a déjà oublié. En
ouais,
fait.
Omicron, c'était le virus. Le virus arrive, mais puisqu'on était vaccinés, on s'est dit, c'est pas grave. Et effectivement, dans les pays développés, on a continué à consommer normalement. Sauf que la Chine, non, ça n'a pas marché. Et ils ont reconfiné en Chine, problème d'approvisionnement. Et donc là, l'inflation revient parce que problème d'offre. L'offre s'arrête, la demande a continué normalement. Elle n'était pas non plus extraordinaire, mais elle continue. Premier mouvement d'inflation. Deuxième mouvement d'inflation, eh ben, c'est en février 2022. Eh ben, la Russie envahit l'Ukraine. Et là, c'est les prix de l'énergie qui arrivent. Et donc, vous voyez, l'inflation est arrivée par des problèmes d'offres, d'approvisionnement, et par un problème énergétique. Ben, vous voyez, aujourd'hui, l'énergie est revenue et s'est stabilisée. Donc, l'inflation énergétique disparaît. D'accord? Et les problèmes d'approvisionnement sont plutôt derrière nous. Mais il faut toujours se méfier avec ce qui se passe aujourd'hui à la mer Rouge. Mais globalement, eh ben, du coup, l'inflation revient à peu près dans son lit.
Et avec ce tableau qui a l'air tout pacifique, Éric Heyer, en fait, met une bombe parce qu'il pose une vraie question, Leïla. C'est à qui devons-nous ce reflux de l'inflation? Il nous décrit des phénomènes naturel en fait, Éric, oui, et pourtant les banques centrales, elles ont... Rappelez-nous ça,
les banques centrales ont fait remonter les taux pour essayer de refroidir la machine économique. Ils ont fait ça partout dans le monde, c'est pas quelque chose qui est différent par région. Mais maintenant, ils sont un peu dans ce moment un peu délicat où ils doivent décider si c'est le moment de changer cette stratégie, de commencer à baisser. Et il y a toute une danse un peu, des joutes verbales, entre ils vont pas vraiment nous dire ce qu'ils vont faire, mais on sent que ça commence à changer.
C'est la même chose aux États-Unis.
C'est la même chose aux États-Unis. C'est encore plus compliqué là-bas parce qu'on est dans une année présidentielle et la tradition fait que la Banque centrale n'est pas vraiment censée donner un coup de pouce à un candidat ou l'autre en améliorant l'économie, en baissant les taux. Enfin, déjà, le chef du Banque centrale, Jerome Powell, il a un job très compliqué. Là, il doit être encore plus tendu, parce que même s'il y a une bonne raison économique pour baisser, s'il le fait, il va être taxé d'interférence dans la politique. C'est un moment compliqué pour les banques centrales à gérer.
Oui, alors, enfin, Alors, il y a les États-Unis où l'histoire n'est pas exactement la même, c'est-à-dire que les prix de l'énergie n'ont pas augmenté. Donc, vraiment, c'était parce qu'il y a eu du soutien budgétaire énorme que là, pour le coup, la demande est partie de façon peut-être un
soutien
peu trop
budgétaire,
forte.
En fait, ça veut dire que Biden a mis vraiment des milliards
alors,
et des milliards.
Trump avant, puis Trump pendant les élections, puis Biden, et donc un soutien budgétaire. Et donc là, la demande était considérable. Et donc, dans ces cas-là, augmenter les taux d'intérêt, pourquoi pas. En Europe, on peut se poser la question, puisque le problème n'était pas un excès de demande, mais que l'offre s'était effondrée. En gros, c'est comme si vous voulez un petit peu vous débarrasser d'une mouche qui s'est posée dans un miroir, vous prenez le marteau des taux d'intérêt. Attention, ça peut peut-être casser la demande, d'accord, mais vous posez deux problèmes. C'est-à-dire que maintenant, en Europe, on a un problème d'offre et un problème de demande. Mmh. Alors certes, l'inflation est revenue, mais vous voyez, les banques centrales disent c'est grâce à nous, mais vous voyez, les politiques budgétaires disent ben non, c'est nous, on a mis des boucliers énergétiques, et vous savez quoi, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, c'est plutôt les salariés. Les salariés, c'est eux qui ont fait taire l'inflation. Pourquoi ? Parce que ils ont accepté, de gré ou de force, que leur salaire ne progresse pas comme l'inflation. Et donc, il n'y a pas eu la boucle inflationniste qu'il y avait généralement. Et donc, cette boucle inflationniste, c'est les salariés qui, aujourd'hui, l'ont pris pour eux. Et donc, ont perdu en pouvoir d'achat. Mais c'est, vous voyez, en gros, ceux qui n'ont pas mis les boucliers énergétiques ou ceux qui en ont mis, au bout d'un moment, on est tous à deux. Vous voyez, aujourd'hui, que ce soit l'Allemagne ou la France, on est à deux.
Qui n'a pas mis ? Alors, nous, on a mis des boucliers.
Nous, on a mis des boucliers. L'Allemagne a fait des chèques, d'accord, pour compenser. On pourra essayer de savoir quelle était la meilleure façon, mais on arrive tous les deux à 2%. Donc, c'est pas ça qui a permis d'éviter l'inflation.
Oui, après moi, je suis un peu critique sur ce fameux bouclier tarifaire que la France a fait. Je pense que ça fait beaucoup de bien aux consommateurs, peut-être, mais personne se souvient de ça, quasiment. C'était, même l'année dernière, j'étais surprise de découvrir ça, c'était 40 milliards l'année dernière encore. On pensait que...
Le quoi qu'il en coûte avait cessé, mais il restait que les boucliers.
Moi, je me souviens être à une conférence il y a 2 ans avec Bruno Le Maire, où il disait quoi qu'il en coûte était fini. Bon, c'était pas exactement ça. Le bouclier tarifaire, je pense, en France, il a été très, très coûteux. Et on peut se poser la question si on a fait un peu trop de déficit pour essayer d'encadrer l'inflation. Et là, on se retrouve dans un autre débat économique qui a commencé il y a quelques mois en France, qu'on se retrouve avec un déficit qui a dérapé l'année dernière. Et enfin, imaginons qu'on n'a pas dépensé les 40 milliards sur le bouclier l'année dernière, on n'aurait pas le déficit de 21 milliards qu'on a eu. Mmh. Alors, il y a des choix à tout ça.
Oui. Oui, alors là, c'est vrai que c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait faire un bouclier ou est-ce qu'il valait mieux donner des chèques pour compenser ? Avantage, inconvénient. Le fait de donner des chèques, on peut le cibler. On peut le donner sur des ménages qui en ont besoin et pas le donner pour des ménages qui n'ont pas besoin. Quand vous faites un bouclier, tout le monde y a droit. Et après, ce que dit Leïla est juste. Quand vous faites un bouclier, vous ne percevez pas ce bouclier. Vous ne comprenez pas. Les prix ont quand même augmenté. Vous dites, ah oui, mais attention, si on n'avait pas fait ce bouclier, ils auraient encore plus augmenté. On ne le voit pas. Et donc, dans l'acceptabilité de remboursement, parce que c'est ce qu'on nous demande maintenant. On nous dit qu'il faut rembourser une partie de cela. On dit, mais je n'ai rien touché. Mmh. Donc là, je suis d'accord. Tout de même, l'avantage, il faut quand même le dire, et sans doute, je pense que l'inflation n'est pas la bonne mesure, c'est que grâce à ces boucliers, les prix ont beaucoup moins augmenté au total en France qu'ailleurs.
On s'en est mieux sorti. Pour les comptes publics, ce n'était pas négligeable non plus.
Alors, ok, pour les comptes publics, c'était à peu près pareil, mais en gros, globalement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'inflation va se calmer, mais les prix ne reviendront pas au niveau d'avant-crise. Et donc, la marge d'escalier sur les prix, en France, elle est de plus 16% aujourd'hui. Elle est de plus 21% en Allemagne. Elle est de quasiment 8 points au-dessus de la France au Royaume-Uni. Donc, c'est la France qui s'en sort le mieux. Dit autrement...
Vous voulez dire... Attendez, quand vous dites la marge d'escalier, c'est le niveau des prix il y a 2 ans...
Aujourd'hui par rapport à l'avant-crise. Vous voyez, on ne reviendra pas. La marge d'escalier, elle est à 16 chez nous. Elle est à plus de 20 dans quasiment tous les autres pays. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire au total? Qui est le grand gagnant au final? Ça sera les entreprises, parce que les salaires vont devoir progresser moins en France qu'ailleurs pour maintenir le pouvoir d'achat. Ça va faire des gains de compétitivité pour les entreprises françaises.
Mais c'est pas mauvais que c'est bien pour les
entreprises. Oui, ah ben non, mais
je...
bien entendu. Voilà. Et donc, du coup, non, mais c'est l'avantage de le faire par des boucliers.
Alors, en effet, c'est pas mauvais pour les entreprises. Maintenant, il se pose un sujet quand même, pour les entreprises comme pour les ménages, c'est, vous le disiez Leïla, est-ce qu'on est au moment où les banques centrales vont faire baisser leurs taux ? Gros débat quand même aux États-Unis aussi.
Oui, il y a un gros débat aux États-Unis parce que les chiffres sont pas... Peut-être la décision n'est pas aussi évidente. Alors du coup, il y a peut-être un scénario où l'Europe, la BCE veut baisser avant les États-Unis. Ça, c'est pas la coutume. D'habitude, ils essayent de garder un peu le même même rythme. On va voir comment ça se profile. Moi, je doute fort que ça va se passer tout de suite là en avril, mais peut-être cet été. Mm-hmm. On verra bien. Mais après, il y a aussi la question de quand est-ce qu'on va voir le côté positif pour l'économie. Quand est-ce que les consommateurs ou les ménages vont sentir ça? Ça va mettre un peu de temps. C'est pas comme si le moment où ils appuient sur le bouton, tout change et genre, ça sera les jours heureux. Bruno Le Maire a essayé cette semaine de donner un espèce de lueur d'espoir. Il était à une conférence économique quelque part où il disait le vrai élan économique puissant est devant nous. Je pense qu'il doit
2025
faire...
2025 et 2026.
Voilà, je pense qu'il faut faire un tout petit peu attention. Probablement, il fait ça pour des raisons politiques, parce qu'il est en pleine crise à cause des déficits. Mais c'est loin quand même, 2025 et 2026. Il y a quand même des problèmes structurels dans l'économie européenne. Un manque de compétitivité, manque d'investissement dans les technologies. Je ne pense pas que juste parce qu'on revient à une inflation un peu plus normale que tout est réglé dans l'économie européenne.
Question pour le spécialiste de la prospective aussi, de la conjoncture. Eric, il y a deux sujets. Donc, Banque centrale, est-ce que c'est urgent de baisser les taux? Et comme dit Leïla, quand est-ce qu'on peut attendre un mieux? Oui. Et puis, est-ce que vous voyez, vous, pour à l'OFCE, pour 2025-26?
Alors, est-ce qu'il faut baisser les taux en zone euro? Oui. Vous voyez pourquoi aux États-Unis, ils y réfléchissent? Parce que la croissance est là. La croissance ne se dément pas. Ils sont au plein emploi. Ils ont encore des difficultés de recrutement. Les salaires progressent. Donc, ils peuvent se poser la question, est-ce qu'il est urgent de baisser les taux? En Europe, le problème n'est pas le même. L'Allemagne est en récession. On est un franc ralentissement. Là, aujourd'hui, l'inflation est contenue. On a une inflation qui est un point en dessous de l'inflation américaine. Donc, oui, il faut baisser les taux. Et plus rapidement qu'aux États-Unis, ça serait logique. Est-ce que ça va donner un soutien d'ailleurs? C'est ce qu'on met. Bon, vous voyez, en gros, nos évaluations, c'est que la politique monétaire, lorsque vous augmentez les taux, les conséquences sont un peu différées. Et donc, c'est en 2024 où la conséquence négative des hausses de taux passées sera la plus importante. Ça va enlever 0,6 points de croissance à l'économie française. Les hausses de taux passées et les baisses de taux, en gros, globalement, pour 2025, vous voyez, alors qu'on a mis une baisse assez significative de plus de 1,5 point, ça va faire plus 0,2 en 2025. Et pour 2026, ça va faire un plus 0,5. Attendez. Donc, ce n'est pas ça qui va relancer, ce d'autant plus qu'au même moment, la politique budgétaire change de signe. On passe d'une politique budgétaire qui soutenait l'activité à une politique budgétaire qui va la restreindre. Et donc, malheureusement, c'est pas un élan de croissance gigantesque qu'il va y avoir d'ici 2027.
Donc, on est loin de ce vrai élan économique puissant que décrit Bruno Le Maire.
Il faut que ça vienne d'ailleurs. Il faut que ça vienne de l'innovation, de l'investissement, de un peu un mouvement de plein de nouveaux secteurs. Peut-être votre invité qui travaille sur les batteries électriques peut nous parler de ça. Mais c'est pas juste des petites choses sur l'inflation qui sont importantes, certes, qui changent totalement la donne pour l'économie française.
Leïla Aboud, Eric Heyer, les débatteurs de ce samedi 6 avril.
Les déindustrialiseront un
maintenant
qu'on y a cette économie.
On passe de l'autre côté des Alpes ce matin pour voir comment l'économie là-bas tourne autour d'un mot, c'est l'écho en VO.
Una maxi frode europea, 24 misure cautelari di cui 8 in carcere, 14 ai domiciliari, 2 interdittive a svolgere attività professionale e commerciale. Un sequestro preventivo di 600 milioni di euro.
Quel plaisir d'entendre de l'italien. On a bien entendu la maxi fraude de 600 millions d'euros. Un détournement de fonds majeur, hein, des fonds destinés à l'Italie dans le cadre du plan de relance européen post-Covid. Bonjour Olivier Tosseri.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes correspondant de France Inter en Italie. Alors Olivier, on savait déjà que le pays avait du mal à dépenser ces quasiment 200 milliards d'euros accordés par Bruxelles. Mais là, 4 ans plus tard, on découvre cette fraude qui nous raconte quelque chose au fond de l'économie italienne, Olivier?
Oui, qui dit quelque chose sur ces tréfonds, plutôt, celui du crime organisé, toujours avide de profiter de la moindre occasion. Celle du plan de relance était une occasion en or. L'attaque de la diligence est lancée, déplore le président de l'autorité nationale anticorruption. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées, des voitures de luxe, des bijoux, des montres et des villas ont été confisquées dans le cadre d'une enquête européenne sur une fraude d'un montant de 600 millions d'euros. Des subventions ont été réclamées pour soutenir la numérisation, l'innovation et la compétitivité de PME-PMI en réalité fictive. Les fonds reçus ont ensuite été transférés vers des comptes en banque en Autriche, Roumanie et Slovaquie. Un rapport du parquet européen révèle ainsi que l'Italie est en tête des préjudices financiers causés au budget de l'Union européenne avec 556 enquêtes ouvertes en 2023 pour un montant estimé à plus de 6 milliards d'euros de fonds mal gérés.
Ouais, dommage, hein, parce que ces milliards bien employés, Olivier, ça aurait pu booster un peu l'activité économique de la botte.
Oui, une activité économique qui ralentit maintenant que le boom économique qui a suivi la fin de la pandémie de Covid-19 est terminé. Le plan de relance est perçu ici comme une occasion historique, non seulement de conjurer un risque de récession, mais surtout d'aider à moderniser un pays traditionnellement velléitaire lorsqu'il s'agit de se réformer. Le gouvernement a pourtant reconnu des retards irrattrapables dans sa mise en œuvre. Au 31 décembre 2023, un peu plus de 45 milliards d'euros ont été effectivement dépensés, soit seulement 23% des ressources qui seront allouées à l'Italie d'ici à 2026.
Olivier Tosseri avec nous de Rome. (Rire) 9h32 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, l'invité du Mag Éco, ce sera le patron d'ACC pour Automotive Sales Company dans le Pas-de-Calais. La première gigafactory de Yann Vincent, sa gigafactory de batteries électriques, a commencé la production en décembre dernier. Tout un écosystème est en train de se créer entre les constructeurs, les fabricants de batteries et les sous-traitants. L'électrification, c'est donc le chemin choisi par les Européens pour parvenir à la neutralité carbone en 2050. Mais passer du pétrole à l'électricité, ça nous pose de nouvelles questions sur nos dépendances. Regardez les minerais stratégiques, on en a déjà parlé, hein, au cœur des batteries, le cobalt, le nickel, le cuivre, le graphite et bien sûr le lithium, l'or blanc, importé à 100%. Vous le savez, il existe un projet de mine dans l'Allier, plus exactement sous la mine de kaolin Deschassières, qui permet de fabriquer de la céramique, hein, le kaolin. Eh bien, on a trouvé un gisement de lithium. La société Imerys voudrait donc avoir le feu vert pour creuser, aussi pour construire, à 50 km de là, à Montluçon, une usine de transformation. Sur place, le débat public a commencé avec les habitants. Jeudi, c'était justement à Montluçon. Mardi prochain, ça sera à Paris, un grand débat. Avons-nous vraiment besoin d'ouvrir une mine de lithium en France? Voici le reportage de Célia Kiré, qui nous emmène donc dans l'Allier.
Merci de vous annoncer. Là, on va aller vers le point d'observation habituel.
J'ai reçu, oui, il y a 2 heures qui tournent.
Ok. Voilà, typiquement les engins miniers qu'on appelle dumpers. C'est des 6 roues motrices et environ 40 tonnes de charge utile. Je m'appelle Christopher Eman, je suis directeur des kaolins de Beauvoir et également directeur du débat public pour Imerys.
Là, on arrive au point A.
Le point A, c'est l'entrée de la carrière. On a balisé de lettres un petit peu l'ensemble de la carrière pour les annonces radio, pour des aspects purement de sécurité.
Et là, on a déjà une vue de la carrière. Ça ressemble à un cratère.
Un cratère, je ne sais pas si c'est le terme. C'est une dépression, en tout cas topographique. C'est des dizaines et des dizaines d'années d'extraction de kaolin. Donc sans doute ce qui a permis la création de millions d'assiettes. De vaisselle. On tient bien les rampes d'escalier quand on va monter sur la carrière et également dans l'usine. Souvent on peut avoir un petit peu de kaolin sous les chaussures, on n'a pas forcément l'habitude de marcher avec chaussures de sécurité. Donc vous pouvez me suivre. Là on marche sur le granit qui est altéré en surface. Donc qui dit granit altéré dit kaolinisé. C'est sur ce même granit qu'il y a le lithium, mais on ira plus en profondeur, là où il est sain et non altéré, pour exploiter le mica porteur du lithium. Alors on parle de plus d'un million de tonnes de minerais de lithium à 0,9%. En fait, c'est des petites paillettes qui sont brillantes. Si vous regardez bien, on en voit quand même. Là, par exemple, vous avez un bloc de granit qu'on a mis en surface. Tout ce qui brille, c'est des micas. Et c'est dans les micas qu'il y a le lithium. Donc on peut s'approcher pour regarder si vous voulez.
Donc on marche sur de l'or blanc, c'est ça?
L'or blanc, nous on n'appelle pas ça comme ça, vous savez. Donc c'est des micas blancs, c'est de la lépidolite plus précisément.
Pour extraire ce lithium, il va falloir creuser une galerie, il va falloir creuser en profondeur.
Imerys a fait le choix d'une mine souterraine pour des questions d'impact environnementaux. Donc on aurait une galerie qui rentrerait là, au sein du granit et on irait jusqu'au granit sain. Donc on descendrait d'à peu près 75 mètres sous la topographie actuelle pour aller exploiter le granit sous forme de galerie. De 75 à 400 mètres. On sait que le potentiel est très conséquent. On dépassera sans doute les 25 années d'exploitation.
Comment vous êtes sûr qu'il y aura moins de conséquences environnementales en mine souterraine par rapport à une mine à ciel ouvert ?
Ça réduit les quantités de roches manipulées. On va directement dans le cœur du minerai. Ensuite, ça nous permet aussi d'enfouir des équipements qui sont bruyants et qui peuvent être générateurs de poussière, comme des concasseurs. Donc on fera un concassage en souterrain. Et ensuite, sur également la gestion de l'eau, parce que l'eau, finalement, ne va pas circuler au sein d'une mine à ciel ouvert, etc. On a à peu près 90% de taux de recyclage des eaux. Voilà, il y a beaucoup d'aspects, je vous ai dit les principaux. Ça génère des surcoûts, mais ça offre des garanties environnementales qui sont importantes.
Et là, à Échassières, on est tout près de la forêt des Colettes, un endroit préservé. Alors ce projet de mine à 1 milliard d'euros divise. Bien sûr, il peut créer 500 à 600 emplois, mais il faudra pomper de l'eau dans la Sioule, dans un département qui en manque. Les habitants sont partagés.
À qui offrez-vous le tour de parole ? Vous avez de la chance.
Nous sommes désormais à Moulins. C'est la première séance houleuse du débat public sur cette mine de lithium dans l'Allier.
Mais... vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de l'exprimer au travers d'un micro qui fait qu'on vous entend et que les 100 personnes en ligne le font aussi.
On se met là, on roule dehors. Vous appelez comment ?
Cécile. Oui, je fais partie de Préservons la forêt des Colettes.
Vous habitez aussi dans le coin ?
J'habite sur le territoire concerné par le projet de Guimerys. Qu'est-ce qu'on craint ? Nous, on table sur un territoire mort. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une toute petite mine qui se profile, c'est pas une minette. Hein. On est sur un projet industriel d'envergure. Il prévoit de sortir 5500 tonnes de roches par jour, c'est-à-dire une piscine olympique de roches par jour qui sera broyée comme de la farine, qui sera soumise à tout un tas de process industriels pour aller y chercher le lithium. C'est une pyramide d'Égypte tous les 3 ans, c'est une sphère qui fera la taille de la tour Eiffel au bout de 25 ans. Je veux dire, le projet est colossal. Et Guimerys, ce soir, a utilisé le terme de transition écologique. C'est important de le dénoncer. Ce n'est pas une transition écologique, c'est une transition éventuellement énergétique. Et moi, je dis, aujourd'hui, se joue pas. Est-ce que je veux une mine à Échassières ? Est-ce que je veux du lithium ? Ce qui se joue, c'est est-ce que je suis d'accord pour le modèle de société qui rend ce besoin de lithium disponible ? Le projet de société qu'on nous impose, parce qu'on ne nous a pas demandé notre opinion, c'est d'extraire du sol entre maintenant et 2050 autant de métaux qu'on en a extrait depuis l'Antiquité, pour peut-être gagner quelques dixièmes de degrés. On s'apprête à détruire tous les compartiments de la biosphère.
Vous imaginez quand même, on vous dit, oui, on vient chez vous, on prend le lithium, on va le vendre sur le marché global et c'est pour la transition énergétique, circuler, il n'y a rien à voir.
Je peux vous demander votre prénom
Étienne, je suis dans l'association Stop Mine 03. Non, on ne peut pas être d'accord avec ça à un moment donné. C'est-à-dire que nous, on veut bien parler de transition énergétique, mais dans ce cas-là, ça veut dire réserver le lithium à des usages qui bénéficient à la collectivité, pour électrifier les transports en commun par exemple, pas pour faire des batteries pour gros véhicules électriques qui vont servir juste à déplacer des riches en fait. Tout simplement. Concrètement, si on ouvre la mine à Échassières, ça va pas faire fermer les mines dans le reste du monde. Il y aura toujours des gens pour acheter du lithium moins cher.
Attention à la marche en descendant lithium.
Alors, est-ce que ce lithium est indispensable pour notre transition énergétique ? Est-ce qu'un jour, on pourra être indépendant des autres pays ? Est-ce que ça a du sens de produire du lithium pour des batteries de SUV ? Pour en savoir un peu plus, on va rencontrer Jean-Philippe Hermine, spécialiste du sujet à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. On est ici dans le 6e arrondissement, à Paris.
Alors, est-ce qu'on a besoin de cette mine-là ? C'est à discuter, mais est-ce qu'on a besoin de ce type de mine ? Assurément. Pendant les 10 années qui viennent, on sait qu'on va avoir besoin de sortir de terre, en quelque sorte, 10 fois plus de lithium que l'on en sort actuellement, chaque année, pour constituer finalement ce parc qui, in fine, servira dans une logique d'économie circulaire. Le lithium est recyclable comme la plupart des métaux qui rentrent dans la composition d'une batterie. C'est ça l'avantage. Seulement, cela arrivera à terme, c'est-à-dire après le pic de demande à peu près autour de 2035, lorsqu'on aura électrifié le parc, et finalement les véhicules électriques qui arrivent en fin de vie serviront à alimenter ce parc dans une logique de circularité qui sera vertueuse in fine.
Et est-ce que d'ici 2035, on a assez de lithium en France dans nos sous-sols ? Est-ce que la France peut devenir souveraine comme le souhaite le gouvernement ?
C'est théoriquement possible lorsqu'on cumule toutes les annonces qui ont été faites. Le projet dans l'Allier est assez sérieux. On serait autour des 2/3 au maximum, peut-être de la moitié de notre besoin quand on considère le parc français. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que le lithium français qui ira dans les batteries des véhicules français, et probablement pas.
Alors justement, j'allais vous poser la question, parce que c'est une question qui revient souvent dans le débat public. Est-ce que ce lithium de l'Allier va aller directement dans les usines, les gigafactories de fabrication de batteries à Dunkerque ?
Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que probablement non dans un premier temps, puisque les procédés qui sont nécessaires pour passer du lithium minier extrait des mines jusque dans les batteries, ben, ces procédés sont à 70% aujourd'hui maîtrisés en termes de technologie et de capacité industrielle par la Chine. Donc il est probable que dans un premier temps, le lithium extrait en France, si on commence dès 2028, eh bien, une partie passera par la Chine avant de revenir dans des gigafactories en France pour être assemblée.
Donc il faut des normes. Mais néanmoins, vous avez rédigé un rapport assez critique avec le WWF sur les SUV, où vous parlez même d'une impasse. En quoi c'est une impasse ?
Il n'y a pas de mine propre, il y a des mines plus ou moins propres, on en a parlé. Mais le lithium le plus propre, finalement, c'est celui qu'on n'utilise pas. On a montré que si on revenait 10 ans en arrière sur la taille des véhicules, la segmentation des véhicules, eh bien, on pouvait faire l'économie d'environ 30% de notre besoin de métaux critiques, donc le lithium, mais aussi le cobalt, le nickel et éventuellement le cuivre. Et c'est extrêmement important. Donc il faut aussi activer ce levier de sobriété et de frugalité lorsque on envisage le développement de cette technologie de l'électrification. C'est une question éthique en quelque sorte.
Doit-on ouvrir une mine de lithium en France ? C'était le reportage de Célia Kir.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et l'invité du Mageco en consomme du lithium, on va en parler. C'est le directeur général d'ACC, Automotive Sales Company. Bonjour et bienvenue Yann Vincent.
Bonjour.
Vous êtes donc le patron de cette co-entreprise de Stellantis, Mercedes et Total. La première, votre première gigafactory de batterie pour voitures électriques a été inaugurée à Douvrin, dans le Pas-de-Calais. C'était il y a presque un an. Hein.
Presque un an, oui.
Yann Vincent, ouais. Jusqu'à présent, 100% des batteries, elles sont importées d'Asie. Absolument. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a déjà certains véhicules qui roulent avec vos batteries ACC ?
Pas encore, mais cela va commencer cette année. Et c'est effectivement tout le sens du projet d'ACC. C'est permettre d'avoir une alternative en termes de supply chain, ce que l'on appelle supply chain, à un approvisionnement qui est aujourd'hui exclusivement ou quasi exclusivement asiatique. Donc notre usine a démarré donc à la fin de l'année dernière et on est dans la phase de montée en cadence. On a d'ores et déjà prévu une deuxième tranche de capacité qui est en cours de construction. Et puis, cette année, nous allons aussi engager la construction d'une usine en Allemagne, d'une usine en Italie, de manière à servir nos clients à partir d'une base européenne.
Mais je reviens quand même à la France. Le but à terme, là, c'est de produire 500 000 batteries ?
En fait, avec la capacité que l'on aura installée dans les Hauts-de-France, on sera effectivement en capacité d'équiper autour de 500 000 véhicules. Tout dépend effectivement de la taille du véhicule sur lequel on met la batterie.
Ouais, ça c'est un sujet. Ouais, et donc si vous en produisez 500 000, pour donner une idée aux auditeurs, c'est un quart de la demande espérée du nombre de véhicules qu'on produira en France.
En France, absolument.
Alors il y a d'autres gigafactories qui vont sortir de terre, il y a aussi des sous-traitants, des centres de test. On voit cette vallée de la batterie dans le nord de la France qui émerge. J'imagine qu'elle recrute. Est-ce qu'elle recrute, question importante, d'anciens salariés du thermique dont les postes sont supprimés et qui cherchent du boulot ?
C'est au cœur de notre projet et c'est au cœur de nos choix d'implantation. Nous sommes implantés à Billy-Berthelot d'Ouvrin, à côté de Lens, sur des terres que nous avons achetées à Stellantis, des terres de la Française de mécanique. Ce sont des terres où l'on fabriquait des véhicules et où l'on fabrique encore aujourd'hui des moteurs thermiques. On sait que cette activité de production de moteurs thermiques est appelée à diminuer.
Il va y avoir des dizaines de milliers de postes.
Appelée à s'éteindre. Ouais. Et donc, ce faisant, en s'implantant là, nous apportons une solution, alors peut-être pas totale, mais en tout cas au moins partielle, à ce qui pourrait être dans les années futures un drame social.
Et donc aujourd'hui, vous avez quoi ?
Donc on a aujourd'hui à peu près 500 personnes qui ont rejoint ce site. Par ailleurs, nous avons un centre de recherche à Bordeaux, nous avons une usine pilote à côté d'Angoulême, en Nouvelle-Aquitaine. Donc on a à peu près 500 personnes. Il y a environ un tiers de ces 500 personnes qui sont des anciens salariés de la Française de Mécanique. Et nous continuons à embaucher parce que nous continuons à monter en cadence. Donc à la fin de l'année, on sera un petit peu moins de 1000 dans cette usine.
Et c'est une grosse formation ? C'est parce que c'est un métier totalement différent.
C'est pas du tout le même métier. Donc, Il y a des responsabilités de management qui sont finalement identiques à celles que l'on trouve dans n'importe quelle entreprise industrielle. Et puis, il y a des activités de conduite d'installation, de maintenance d'installation qui sont extrêmement sophistiquées. Donc, ces personnes sont formées. On utilise notamment notre ligne pilote de Nersac à Angoulême pour former, pour apprendre à ces gens ce nouveau métier.
Donc, une filière qui naît, Yann Vincent, mais on a entendu le reportage avec un défaut congénital, la dépendance aux minerais stratégiques. Vous avez entendu les inquiétudes aussi des habitants là, autour de cette mine de lithium potentielle. Est-ce que pour vous, industriels, ouvrir une mine, ouvrir cette mine, c'est nécessaire ?
Je dirais que nous, on se satisfait évidemment d'avoir le plus de fournisseurs, entre guillemets, qui soient à proximité. Donc ça, je dirais que c'est notre règle générale. Ensuite, nous, on n'achète pas directement aux mines. Nous achetons à des entreprises chimiques qui elles-mêmes achètent à des raffineurs, qui eux-mêmes achètent à des mines. Pour autant, on est extrêmement intéressé à la qualité de cette supply chain. On s'engage auprès de nos clients, Stellantis, Mercedes pour l'instant, sur la traçabilité des matériaux. D'où viennent les matériaux ? On s'engage sur la qualité des mines dont nos matériaux vont provenir, de manière à ne pas avoir de mines qui ont des exploitations environnementales non satisfaisantes, des mines qui ont des exploitations sociales non satisfaisantes.
Mais la question, c'est est-ce que vous achèteriez ce lithium français potentiellement plus cher d'ailleurs ?
On l'achètera pas en direct. On l'achètera à un de nos fournisseurs chimiques qui potentiellement achètera cette mine.
Donc c'est le marché mondial, d'accord. Donc il n'y a pas de circuit court automatique, on ne peut pas se dire ça.
Non, il n'y a pas de circuit court automatique.
Ce sont des investissements en milliards ce que vous êtes en train de faire. Hein. Et il va falloir rentabiliser. D'abord, il y a 40 autres projets de gigafactory au moins en Europe. Hein. C'est déjà une compétition. Mais surtout, aujourd'hui, il y a le problème de la Chine qui surproduit massivement des batteries. Et là, elle les met à prix cassé du coup sur le marché. Est-ce que la batterie Made in France, elle peut être compétitive ?
D'abord, effectivement, on a commencé l'exploitation, enfin la production de batteries avec 15 ans de retard ou 20 ans de retard sur la Chine. Donc évidemment, les entreprises chinoises ont une expérience qui est plus grande que la nôtre. Elles ont créé autour d'elles un écosystème. Est-ce que la bataille est perdue ? Non, la bataille n'est pas perdue. La bataille n'est pas perdue, nous en sommes convaincus. Nous en sommes convaincus parce que d'abord, nous appuyons sur non seulement notre propre intelligence, mais aussi l'intelligence de nos actionnaires. On a parmi nous Saft qui produit des batteries depuis très longtemps, qui a une très grande expertise dans le produit. On s'appuie sur les laboratoires, sur les universités européennes. On a un certain nombre de partenariats.
Il y a le prix, je vous entends, et je suis sûr que c'est... Bien sûr, mais il y a le prix.
Ensuite, on achète les mêmes machines que les entreprises chinoises. On achète les mêmes matériaux que les entreprises chinoises. Le coût du travail n'est pas un coût qui est très important dans celui d'une batterie. Nous avons une énergie, notamment en France, décarbonée, à un prix compétitif. Nous ne supportons pas les coûts de logistique depuis la Chine.
Je formule ma question autrement, je vous entends. Est-ce qu'il faut laisser faire le marché ou est-ce qu'il faut faire comme les Américains et faire un peu de protectionnisme ? Pour vous, les fabricants de batteries.
Je ne crois pas beaucoup au protectionnisme. Je crois que nous devons nous muscler, nous devons nous battre, nous devons collectivement utiliser les ressources européennes, les ressources d'intelligence, plutôt que de monter des barrières qui, de toute façon, seraient surmontées.
Dans les 10 prochaines années, il va falloir réduire le poids des batteries de moitié. Ça sera une évolution plus satisfaisante pour l'environnement et qui aidera à résoudre le problème de rareté du lithium. Ça, c'est le patron de Stellantis qui l'a dit il y a 3 jours, Carlos Tavares. Alors, je sais que c'est votre actionnaire principal et votre client, mais dites-nous quand même, est-ce que de plus petites batteries, c'est votre axe de travail ?
Ah, mais c'est un axe fondamental d'innovation. C'est faire en sorte que finalement, à même volume, on puisse mettre plus de densité énergétique, plus de densité énergétique voulant dire plus d'autonomie. Donc nous y travaillons et cela passe par la chimie, cela passe par la dimension des cellules que l'on utilise pour effectivement à terme réussir à réduire le poids des batteries.
Yann Vincent, ces derniers mois, il y a eu des doutes sur les ambitions écologiques et environnementales de Bruxelles. Est-ce que dans un coin de votre tête, il y a un scénario où l'interdiction des ventes de moteurs thermiques qui est prévue pour 2035, elle est repoussée ?
Écoutez, ce que l'on a comme finalement règle de comportement, c'est une prudence extrême. On voit bien que l'environnement est extrêmement incertain, est extrêmement volatile. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, le coût des investissements est considérable. Une gigafactory, c'est environ 1 milliard d'euros. Donc, autant dire que nous sommes extrêmement prudents sur la compétitivité des coûts. On ne construit pas une gigafactory si on n'est pas sûr d'avoir un montant d'investissement maîtrisé. Et puis, on cherche à le faire au plus près possible de la demande. Donc, on est très vigilant.
Vous ne me répondez pas tout à fait sur l'interdiction. Vous pensez que c'est possible ou pas? Vous voyez, c'est important pour vous, j'imagine, si on dit ou pas qu'en 2035, les ventes de moteurs thermiques sont interdites, c'est un élan ou pas un élan?
Au premier ordre, c'est très important pour le constructeur automobile. Au premier ordre, c'est pour le constructeur que c'est important. Je suis convaincu que l'électrique qui a un impact favorable sur le CO2, donc sur la protection de la planète, va croître. Est-ce que ça croîtra aussi vite qu'on le pensait il y a quelques mois? Je pense que non.
Ça, c'est une réponse. Cette semaine, le grand débat et la grande tension entre écologie et économie, ça a été au sujet des polluants éternels. Une proposition de loi a été adoptée pour mettre des limites à la fabrication et à la vente de certains produits. Alors, les poils y échappent, les poils anti-adhérentes. Il y a des PFAS, ça s'appelle comme ça, dans les batteries pour véhicules électriques. Est-ce que vous êtes concerné?
Oui, les PFAS sont des produits fluorés dont effectivement la toxicité apparaît comme critique. Nous avons des PFAS dans les batteries, nous avons des PFAS dans les machines pour fabriquer les batteries, nous n'avons aucun rejet de PFAS. Donc il n'y a aucun PFAS qui part dans l'eau, qui part dans le sol, comme conséquence de notre production. Le point qui est important, c'est que nous travaillons pour, à terme, pouvoir les supprimer. Les fabricants de machines y travaillent aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que si à court terme, on nous disait « vous ne devez plus mettre de PFAS dans vos batteries, vous ne devez plus utiliser de PFAS dans les biens d'équipement », on ne saurait pas faire des batteries en Europe.
Donc vous n'avez pas d'alternative. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est quand même pas un nouveau sujet, ces PFAS. Comment se fait-il que les industriels, n'aient pas cherché avant des alternatives?
C'est-à-dire qu'en fait, on ne les rejette pas. La toxicité vient du fait que ces PFAS puissent être dans l'eau, puissent être dans la terre. Le fait qu'elles soient dans des batteries protège complètement finalement le citoyen.
À propos de technologie, et vous allez voir, je reviens au chinois, je lis qu'il maîtrise une autre technologie que la batterie à lithium-ion, celle justement que vous avez. Hein.
Oui.
Et je lis aussi que cette technologie de batterie LFP est moins chère. Est-ce que ça, c'est une inquiétude?
En fait, la technologie LFP, c'est ce que l'on appelle lithium phosphate de fer. C'est une chimie qui est beaucoup moins coûteuse, qui est aussi beaucoup moins dense énergétiquement, et donc toujours la même chose, à même volume utilisé, vous aurez moins d'énergie, donc moins d'autonomie possible sur la voiture. C'est évidemment des sujets sur lesquels nous travaillons en termes d'ingénierie.
Ils ne vous ont pas déjà mis sur le bord de la route? Vous êtes en train de bosser là-dessus aussi, c'est ça que
vous
nous dites?
Non, c'est comme sur le reste, c'est-à-dire que nous sommes dans une course où nous avons à rattraper celui qui est parti avant. Donc, on redouble d'efforts.
Yann Vincent, le directeur général d'ACC, enthousiaste sur le défi. Merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Madame Vieux-Boulot, Sandrine Foulon, alors Léa vous écrit, elle est étudiante en médecine, elle s'inquiète des pistes en discussion pour freiner les arrêts maladie. Faire passer le délai de carence de 3 à 6 jours ne risque-t-il pas de pousser les gens à s'arrêter plus longtemps? C'est sa question.
Alors oui, ce scénario serait étudié par l'exécutif, c'est ce que nous a appris la Tribune. Je rappelle la situation aujourd'hui, dans le privé, un salarié est indemnisé par l'assurance maladie au bout de 3 jours d'arrêt, dans le public c'est à partir du 2e jour. Logiquement, Léa, on pourrait se dire que plus on rallonge ce délai de carence, plus les salariés réfléchiront à deux fois avant de rester au lit. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe, c'est même l'inverse. Une étude du ministère de la Santé montre que les salariés dont le délai de carence est pris en charge par l'employeur s'arrêtent moins et moins longtemps. Deux facteurs expliqueraient ce paradoxe. Pour ne pas perdre de salaire, les autres, ceux qui ne sont pas couverts, vont travailler en étant malades, leur santé se dégrade et ils finissent par s'arrêter plus longtemps. L'autre raison est que certains pourraient privilégier les arrêts plus longs parce qu'ils savent qu'ils seront indemnisés par la suite. L'expérience de la fonction publique est également intéressante. L'instauration d'un jour de carence, supprimé puis réintroduit il y a 6 ans, n'a pas produit de réel effet. Les arrêts de 2 jours ont certes diminué, mais ceux d'une semaine à un mois ont augmenté.
Alors je vous pose souvent cette question Sandrine, mais est-ce que cette mesure serait efficace au moins financièrement?
Si des délais de carence plus longs provoquent des arrêts de travail plus longs, l'intérêt est très limité pour la sécu. Les employeurs, eux, ne feraient pas forcément d'économies. Ils sont déjà plus de 60% à couvrir les 3 jours de délai de carence actuels. Pour que ce soit rentable, il faudrait que ces jours soient d'ordre public, c'est-à-dire qu'ils ne soient payés ni par la sécu, ni par les employeurs. Mais surtout, il faut le rappeler, ce sont les arrêts longs qui coûtent cher. Seulement 6% des arrêts durent plus d'un mois, mais ils représentent 44% des dépenses de l'assurance maladie. C'est difficile de vous montrer un graphique à la radio, mais pour les arrêts courts, c'est pile le contraire. Les absences de moins d'une semaine, quasi la moitié des arrêts, ne pèsent que 4% des indemnités journalières. Il faut aussi comprendre pourquoi les arrêts explosent. Mmh. Le fait de travailler plus longtemps est une explication. Les progrès de la médecine en sont une autre. Aujourd'hui, et c'est tant mieux, les salariés peuvent travailler avec des cancers, des pathologies chroniques, mais ça suppose des périodes où ils sont absents. Les maladies imaginaires et les arrêts bidons, ça existe, mais ce ne sont clairement pas eux qui font grimper la facture.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot. Vous pouvez nous retrouver en podcast et retrouver l'interview en vidéo. Ça se passe sur la page internet de l'émission et sur les réseaux. Toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end et vous donne rendez-vous même jour, même heure, la semaine prochaine. Juste après le journal du cinéma, on aura tout vu, l'émission de Christine Masson et Laurent Delmas. Ça sera autour du film documentaire Madame Hoffman.
On n'arrête pas l'écho.